Vous écoutez RTL.
Dans quelques minutes, nous serons sur le stand McDonald's depuis le Salon de l'Agriculture pour comprendre comment cette enseigne contribue à l'économie de l'agriculture française. RTL, toujours avec vous. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Bonjour à toutes et à tous. On est rentré à la maison, c'est-à-dire dans le studio du 22 rue Bayard pour vous présenter une nouvelle édition de l'heure du crime après un passage hier donc au Salon international de l'agriculture. Mais vous savez que jusqu'à la fin de la semaine, il y a beaucoup d'autres émissions d'RTL qui sont là-bas et qui vous donnent rendez-vous. Comme ça, vous pouvez. C'est bien pour nous de mettre de temps en temps un visage comme ça sur ceux qui nous écoutent chaque jour. Perrine Suquet est là en pleine forme. Margot Agnès, bien sûr, pour les archives sonores de la rédaction d'RTL. Philippe Duval est à la technique aujourd'hui. Et à la une de l'émission, c'est une des affaires les plus controversées du XXe siècle. 12 ans de procédure, 3 procès, une affaire qui demeure encore d'une certaine manière une énigme aujourd'hui, malgré l'acquittement de la principale intéressée après un feuilleton donc de 12 ans de procès. Le dernier procès, 1961, Marie Bénard est acquittée. Elle était soupçonnée d'être une tueuse en série, puisque on lui reprochait 12 meurtres, pratiquement tous des gens très proches d'elle. Et l'arme fatale, si j'ose dire, c'était l'arsenic. L'arsenic qui revenait un peu au goût du jour après la Deuxième Guerre mondiale, alors que de tout temps, ce poison a été l'arme de la femme. Bon, il paraît que ça a changé maintenant, c'est plutôt le revolver. Je ne sais pas si mon invité a des lumières là-dessus. Bonjour Bérangère de Condat.
Bonjour Jacques.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va le dire tout de suite. Alors, vous êtes anthropologue judiciaire. Une fois de plus, je vais vous demander de nous dire quel est votre métier dans un tout petit instant. Mais d'abord, c'est une vraie passion pour vous, cette affaire,
hein,
en tant que scientifique.
Hein. Absolument. C'est une affaire tout à fait remarquable à différents points de vue, parce qu'elle marque vraiment la naissance de la toxicologie médico-légale.
D'accord.
Et donc, des guerres d'experts à n'en plus finir pour des c'est la vérité. Donc c'est vraiment un cas historique majeur.
Oui. Alors votre métier d'anthropologue judiciaire
Je suis spécialiste de la médecine légale, donc je m'intéresse à l'histoire de la médecine légale. J'interviens aussi auprès des procureurs pour travailler sur des restes osseux particulièrement abîmés, donc dans des conditions qui sont un peu tristes malheureusement.
Pour tenter de les identifier ou de
pour
savoir
tenter
de quoi la personne a
de
pu
comprendre
être...
s'il y a eu effectivement un acte criminel ou bien pas. Et je suis également historien, spécialiste donc du corps, et notamment du corps mutilé, du corps abîmé à travers les âges.
Voilà, et à cause, on peut dire, ces mutilations d'un certain nombre de personnages très peu fréquentables, comme ceux dont vous parlez dans votre dernier livre, puisque c'est votre actualité. Je voudrais redonner le titre, Le saccage de la chair. C'est un livre qui est paru aux éditions Moseu. Dans la collection Moseu, oui. Dans la collection Postmortem. J'ai toujours du mal avec le nom de cette. Faut changer le nom de l'édition.
On va changer le nom de l'éditeur aussi, oui.
Bon. Et dans ce dernier livre, Le saccage de la chair, vous évoquez, entre autres, Joseph Vacher, le juge et l'assassin, un des premiers grands tueurs en série français, le sergent Bertrand, militaire négrophile et négrophage. Donc des gens, effectivement, qui ont fait des choses à glacer le sang, mais que vous décryptez. On essaye de comprendre avec vous ce que ces pratiques révèlent finalement de l'esprit criminel, pour reprendre le titre d'un feuilleton qui est très suivi en ce moment. Alors, on va parler donc avec vous de cette bataille d'experts, de l'arsenic qui est au centre, parce qu'on a dit oui, elle a mis de l'arsenic dans l'assiette de ses proches. D'autres ont dit non, mais l'arsenic, il y en a dans les terres de cimetière, quand on arrose les géraniums, on inonde les tombes d'arsenic. On va revenir sur tout cela, mais d'abord, je voudrais qu'on entende la voix de Marie Bénard, puisqu'on l'a dit, 1947, les rumeurs, on y reviendra dans un instant, 1949, l'accusation, meurtre en série, 12 meurtres, dont son mari, et puis ensuite, des procès qui vont émailler ce long feuilleton jusqu'à son acquittement le 12 décembre novembre 1961. Alors, je précise la date parce que le premier document qu'on va entendre, c'est pas un document RTL, c'est un document Radio Luxembourg, puisqu'à l'époque, RTL s'appelait Radio Luxembourg. Et ce jour-là, donc, Marie Bénard vient d'être acquittée. Et quelques instants plus tard, à la sortie du tribunal, à Bordeaux, elle accepte d'être interviewée, de répondre aux questions de quelques journalistes qui sont là. Parmi eux, un célèbre journaliste de Radio Luxembourg et un excellent écrivain également, Georges Walter. Écoutez cet échange entre Marie Bénard et Georges Walter.
Marie Bénard, excusez-moi d'évoquer des souvenirs qui sont durs pour vous. Vous avez été 5 ans en prison. Et quand ce procès a commencé, vous avez de nouveau été arrêté. Et où étiez-vous incarcéré pendant ces 22 jours ?
L'hôpital Pellegrin.
Oui.
Oui.
Est-ce que vous aviez l'impression d'être prisonnière à nouveau ?
Non.
Non.
Ah non.
Pourquoi ?
Non. Parce qu'on a été tellement gentils pour moi.
Oui.
Oui.
Et vous pensiez que vous ne resteriez pas en prison ?
Ah non. Non.
Est-ce que dès le premier jour, vous avez pensé, il y a eu des moments au milieu de ce procès où on avait l'impression que les événements étaient menaçants pour vous. Est-ce que vous avez eu peur ?
Non, jamais, monsieur. Je n'ai jamais eu peur.
Et pourquoi ?
Avec mes brillants défenseurs et ma conscience libre, monsieur, quand vous n'avez rien fait, on ne peut pas avoir peur.
Voilà, j'avais envie qu'on réécoute, qu'on entende plutôt la voix de Marie Bénard, parce qu'il faut pas oublier que pendant ces 12 ans, on l'a appelée la Brinvilliers de Loudun, l'empoisonneuse. Et là, celle qu'on entend, c'est vraiment la bonne dame de Loudun.
Tout à fait, c'est la bonne dame de Loudun, et il y a vraiment une grande opposition entre son physique, sa voix, et surtout les crimes dont elle est accusée, qui sont terribles, avec une préméditation, avec un intérêt vénale des plus développés. Donc c'est une femme qui, somme toute, est un peu une caricature de la femme empoisonneuse telle qu'on l'a connue à travers les siècles et dans l'histoire.
Voilà, et vous parliez des experts il y a un instant. Oui. Il y a des experts psychiatres aussi qui se sont penchés sur le cas de Marie Bénard. Écoutez, j'ai trouvé ça tellement incroyable que j'ai noté la formule. Un des experts psychiatres chargé par le tribunal donc de dire si cette femme était peut-être sous l'emprise d'une maladie psychique, dit au président du tribunal, elle est anormalement normale, monsieur le président. Je trouve ça absolument extraordinaire. Alors, c'est de cette femme anormalement normale qu'on va parler. Évidemment, chacun se fera son opinion. Il y a une vérité judiciaire. Elle a été reconnue innocente des crimes dont on l'avait accusée. Mais encore aujourd'hui, au 21e siècle, il y a des gens qui n'en sont pas convaincus du tout. On en reparlera ensemble tout à l'heure. Et dans un tout petit instant après une pause, eh bien, je vais vous raconter en quelques minutes les circonstances dans lesquelles cette affaire majeure a éclaté.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Nous sommes le 16 octobre 1947. Ce jour-là, Marie Bénard et son mari, Léon, un artisan cordelier âgé de 53 ans, partagent un rapide repas champêtre dans la ferme des Libouraux, à 85 km de Loudun. Sont présents ce jour-là, à ce repas, des cousins de Marie qui viennent de reprendre la ferme en viager, sa mère, Marie-Louise, Alphonse Barodon et son épouse, un couple qui gère l'hôtel du Cheval Blanc à Loudun, hôtel qui appartient à Marie. Et puis encore un garçon de ferme d'origine allemande, un ancien prisonnier qui est resté en France après la guerre, Adi, qui s'occupe des menus travaux. Ils sont tous venus passer quelques jours à la ferme dont ils supervisent chaque année les moissons et les vendanges. Léon a une santé fragile. D'ailleurs, il est resté alité 3 mois de suite en 1946, l'année précédente, victime d'une mauvaise grippe. Mais depuis 8 jours, il va mieux. Il est allé vendre du bétail à la foire. Avec Adi, il a assuré les réparations courantes pour laisser la ferme en bon état pendant les mois d'hiver. Et après ce repas de midi, tous doivent rejoindre Loudun, où ils habitent. C'est Alphonse, ami d'enfance de Marie, par ailleurs, qui fournira sous serment, au cours du premier procès, le détail du menu. Potage, œufs au plat, haricots, viande, vin et café. Ce repas terminé, Marie met de l'ordre pour tout laisser propre avant son départ. La maison est ensuite soigneusement fermée. Par sécurité en vue du voyage, Léon part redonner un coup de pompe aux pneus de la voiture. Mais Marie le voit soudain revenir tout pâle. Léon lui dit qu'il a dû fournir un effort un peu trop violent. Il a été pris d'un léger malaise. D'ailleurs, il a fini par vomir son repas. Marie propose alors qu'Alphonse prenne le volant. Mais Léon dit que non, finalement, c'est inutile. Il se sent beaucoup mieux maintenant. Les Bénard arrivent chez eux en fin d'après-midi. Marie fait le ménage. Elle prépare le repas du soir. Lorsque Léon, au moment de passer à la table du dîner, est repris par une envie de vomir. Alors, il ne dîne pas et il monte directement se coucher. Marie, sa mère, Adi, qui est là toujours, achèvent ensemble leur repas. En montant se coucher, Marie constate que Léon s'est endormi. Ce sera une de ses dernières nuits paisibles avant d'entrer bientôt dans des souffrances intolérables. Le lendemain matin, en effet, Léon se sent très mal. On appelle le médecin de famille, qui diagnostique aussitôt une crise de foie et qui lui prescrit de rester à la diète pendant quelques jours. Pour lui, c'est une question en fait de 2 ou 3 jours à peine. Léon, dit-il, sera bientôt à nouveau sur pied. Mais Léon va de plus en plus mal dans les jours suivants. Il souffre de tout le côté gauche de son corps. On soupçonne alors un problème cardiaque. Par faire des analyses de sang, et ces analyses révèlent un taux d'urée d'1,41 g. Au fil des jours, Léon continue à s'affaiblir. De nombreux amis viennent lui rendre visite à la maison, les Baraudon, le couple de fermiers, les Cruaux, la femme de ménage, Mademoiselle Taudière, les Frémont, les Billot, les Lebeau, les Duzac et aussi la plus fidèle amie du couple, Louise Pintou, veuve, postière à Loudun et fidèle parmi les fidèles qui vient jusqu'à 2 fois par jour. Les mauvaises langues en ville laissent tout de suite entendre qu'elle serait même devenue très proche, vraiment, oui, très très proche de Léon ces derniers temps. Et tous témoigneront à charge contre Marie Bénard lors du procès. Le 24 octobre, Léon se met à cracher du sang. Il est inerte et il finit par sombrer dans le coma. Tous ses fidèles défilent à nouveau dans la maison. Le lendemain, 25 octobre, Léon rend son dernier souffle. C'est la fin de 19 ans de bonheur vécu auprès de Marie. Sans que Marie Bénard le sache, une rumeur commence à se répandre à ce moment dans Loudun. On murmure que la mort de son mari tombe à pic pour la rendre encore un peu plus riche, car Léon lui a légué des immeubles, des hectares de terres agricoles, des chevaux. Et puis on ajoute que Marie n'a pas eu de chance ces dernières années. Mais souvenez-vous, entre 1938 et 1941, elle a perdu 8 proches dans sa famille ou dans celle de Léon. De tous, d'ailleurs, disent les mauvaises langues, elle a fini par hériter. Elle était leur légataire universelle. L'une de celles qui alimente la rumeur n'est autre que la meilleure amie du couple, Louise Pintou, la veuve, vous savez, la postière, tellement proche de Léon. Eh bien, c'est elle qui va aller rendre visite à un original qui s'appelle Auguste Massip, un homme qui possède le château de Montpensier dans les environs de Loudun. Et là, sous le sceau du secret, elle lui révèle qu'avant de mourir, Léon lui a dit qu'au cours du repas à la ferme des Libouraux, il avait vu un liquide dans son assiette, que Marie avait versé la soupe dessus et que, après l'avoir mangé, il avait été pris de vomissement. Et Louise ajoute qu'elle en a d'ailleurs déjà parlé à son amie, Mademoiselle Michaud, au docteur Chauvenet, qui en a parlé lui-même au docteur Gallois, mais personne ne voulait la croire. Alors elle a décidé de mettre Auguste au courant. Mais elle lui demande bien sûr de ne pas parler d'elle, de garder le secret sur l'origine de cette révélation, car dit-elle, je ne veux pas d'histoire, et puis vous comprenez, je loue ma maison à Marie. Alors, je ne voudrais pas être expulsée. Auguste Massip consulte immédiatement un dictionnaire médical et les symptômes présentés par Léon lui font penser à un empoisonnement par arsenic. Alors il décide d'écrire au procureur de la République pour lui faire part de ses soupçons. Et c'est le début de l'engrenage fatal qui va broyer Marie Bénard, projetée à cet instant au cœur d'une saga judiciaire qui va durer plus de 12 ans. Dans un premier temps, le procureur classe la plainte de Massip sans suite. Mais les rumeurs reprennent et elles sont insistantes. On dit que Marie file maintenant le parfait amour avec Adi, le prisonnier allemand. Maintenant qu'elle est débarrassée de son mari, le château de Montpensier brûle. Alors on pense à une vengeance de Marie. En fait, on découvrira plus tard que ce sont deux enfants de fermiers qui ont mis le feu au château en jouant avec des allumettes. Mais le mal est fait. La maison de Louise Pintou va être cambriolée. Rien n'a été volé, mais des affaires ont été répandues dans le jardin et autour de la maison. Nouvelle vengeance de Marie. Tout le monde se pose la question en ville où la rumeur s'amplifie. Marie Bénard, murmure-t-on, Marie Bénard a tué son mari. Et Louise porte plainte. Elle est entendue par deux inspecteurs de police à propos du fameux cambriolage. Et la coup de théâtre, elle finit par parler aux policiers des accusations faites selon elle par Léon avant sa mort. Vous savez, le liquide dans l'assiette de soupe. Cette fois, la justice doit agir et le juge décide de procéder à l'exhumation du corps de Léon. On va procéder à des analyses toxicologiques pour voir si on ne trouverait pas des traces d'arsenic. Marie Bénard, qui entre-temps a perdu sa mère en janvier, encore un décès, est arrêtée. Elle est écrouée le 21 juillet 1949. Les analyses effectuées par le docteur Georges Béroux de Marseille sont sans appel. On a retrouvé, dit-on, 19 mg d'arsenic sur les prélèvements faits sur le corps de Léon. Une dose bien supérieure à la normale qui prouve, selon le rapport du plus célèbre des experts judiciaires de son temps, que Léon Bénard a bien absorbé de l'arsenic avant sa mort. Il y a eu empoisonnement. Malgré les protestations d'innocence de Marie, la justice décidera d'exhumer au total les corps de 11 autres personnes, toutes des proches de Marie Bénard dont elle a hérité, on en parlait tout à l'heure. Les analyses du docteur Béroux confirmeront que tous ces corps contiennent des doses d'arsenic supérieures à la normale. Le premier procès aura lieu en 1952 à Poitiers. L'expert Béroux y sera tellement mis en défaut par la défense et par d'autres experts que le juge décidera de renvoyer le procès. Et le deuxième marathon judiciaire débutera à Bordeaux, devant la cour d'assises, le 15 mars 1954. Nouvelle bataille d'experts qui débouchera sur un nouveau renvoi judiciaire et sur la désignation de nouveaux experts toxicologiques. Marie Bénard est quand même remise en liberté contre une caution d'1 200 000 francs, une somme à l'époque. Elle attendra la suite des événements tranquillement dans sa maison de Loudun, où elle a tenu à revenir vivre et où elle croisera chaque jour le regard de ceux et de celles qui l'ont accusée d'être l'empoisonneuse, la Brinvilliers de Loudun. Le troisième procès aura lieu à Bordeaux du 20 novembre au 12 décembre 1961. Experts et chercheurs s'affronteront une dernière fois. Marie Bénard, cette fois, est acquittée, on l'a dit. Après 12 ans de bataille judiciaire, l'empoisonneuse peut enfin devenir la bonne dame de Loudun.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Voilà. Nous sommes au cœur de l'histoire de Marie Bénard et vous comprenez pourquoi on disait au début de l'émission que ça a été une des affaires majeures du 20e siècle. Nous revenons sur les détails de l'enquête, sur les analyses toxicologiques, sur ce qu'il faut penser des témoignages des uns et des autres avec mon invitée, Béatrice de Conda, anthropologue judiciaire.
Vous écoutez RTL.
Je ne sais pas si Marie Bénard écoutait Ray Charles sur Radio Luxembourg en 1961, mais le hasard faisant bien les choses, cette chanson est de 1961, l'année de l'acquittement de Marie Bénard, et c'était bien sûr Ray Charles sur RTL. Un petit mot pour vous dire que si vous souhaitez voir programmer à la une de l'émission une affaire qui vous a particulièrement marqué, c'est le cas aujourd'hui, j'en parlais hier d'ailleurs, il y a eu beaucoup de demandes sur RTL.fr d'auditeurs qui voulaient que nous revenions vraiment en détail sur l'affaire Marie Bénard, ceux-là sont satisfaits aujourd'hui. Mais si vous avez une autre affaire en tête, une affaire qui vous a profondément marqué, eh bien vous allez sur RTL.fr à la page de l'heure du crime, là il y a une photo, au milieu de la photo il y a marqué « Soumettez une idée à l'émission ». Donc voilà, vous cliquez, vous laissez prendre par la main. Et s'il vous plaît, alors vous n'oubliez pas deux choses. Un, de nous dire pourquoi cette affaire vous a marqué. Et deux, de nous laisser, bien sûr, quelques coordonnées pour qu'on puisse vous joindre si par hasard on ne connaissait pas l'histoire.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et maintenant, à la une de l'émission, c'est Bérangère de Condat, mon invitée, donc anthropologue judiciaire. Vous disiez tout à l'heure, en commençant l'émission, que ce qui est, vous avez passionné là-dedans, évidemment, c'est puisque vous êtes un expert scientifique, c'est tout ce qui s'est dit autour de l'arsenic. Alors, avant de vous laisser parler, je voudrais simplement dire, rappeler que on exhume le corps de Léon Bénard, qui vient de mourir 2 ans avant, le 11 mai 49. Donc, il s'est passé 2 ans. Les prélèvements sont effectués par une sommité de l'époque qui s'appelle, c'est un médecin légiste marseillais, le docteur Béroux. Et là, alors, patatras, coup de théâtre, dans les viscères de Léon Bénard, ce professeur vraiment incontesté dit « J'ai trouvé 19 mg 45 d'arsenic pur. » Et ça, ça ne peut pas être le hasard.
Absolument, absolument.
Qu'est-ce qu'il faut penser de ça? C'est vrai que c'est une dose terrible.
C'est une dose très très élevée. Je ne vais pas ennuyer les auditeurs avec de la chimie appliquée en médecine légale. En tout cas, il est fort sûr qu'effectivement, les quantités d'arsenic retrouvées sur la totalité des cadavres exhumés étaient particulièrement intéressantes. Or, l'expertise du docteur a été remise en cause, hein, tout simplement parce qu'apparemment les quantités de matière organique sur lesquelles on avait effectué les prélèvements n'étaient pas suffisantes. Il y avait eu des bocaux qui avaient été mélangés.
Oui, on s'était trompé d'étiquette,
Il y
avait des bocaux qui avaient disparu, des viscères qui avaient disparu.
Absolument.
Parce que, pardonnez-moi, il y avait de quoi. Il y avait quand même les restes de 12 personnes. On l'a pas dit, mais le cousin et le premier époux de Marie Bénard, 6 mg, pardon. Sa grand-tante par alliance, 35 mg. Un ami intime, Toussaint Rivet, 18 mg. Blanche Rivet, la femme du précédent, 30 mg. Pierre Davaillot, le père de Marie Bénard, officiellement mort de congestion cérébrale en 1940, ses restes contenaient 36 mg d'arsenic, etc., etc. Donc c'est évidemment, l'affaire est faite quand on lit ça.
Ce sont des taux qui sont effectivement faramineux et terribles. Ouais. Le seul problème, c'est qu'à l'époque, les normes draconiennes qui sont observées de nos jours dans les laboratoires de police et de gendarmerie scientifique n'étaient pas tout à fait respectées. On sait qu'il y a des mesures qui concernent notamment la conservation. Il faut que les prélèvements soient scellés, il faut qu'ils soient conservés à certaines températures. Donc tout ça n'avait pas été fait. Donc on se retrouvait avec effectivement pléthore de matière, mais pas facilement exploitable.
Et alors, vous qui êtes une spécialiste, moi j'ai oublié le nom, mais il paraît que c'était une technique particulière, là.
Alors, c'est une technique une technique qui est assez compliquée, qui est la technique de Marsh et Cribier. Alors, Marsh était un.
Qui remonte au 19e siècle,
en fait. Marsh était un chimiste anglais qui, dans les années 1830, avait dû expertiser le cas d'un jeune homme qui avait, soi-disant, donc, empoisonné son grand-père à l'aide d'arsenic versé dans une tasse de café. Et effectivement, pour pouvoir parvenir à découvrir cet empoisonnement, il avait mis en place une méthode assez particulière. Alors, je vais essayer de résumer d'une façon le plus claire possible.
Enfin, dites-nous juste qu'il faut
on
savoir.
On combine les propriétés de l'hydrogène à l'arsenic. Mmh. On obtient du gaz donc arsénié. Mmh. Et à partir de ça, avec l'aide de la chaleur, on transforme. Il y a une séquence donc chimique assez longue. Mmh. Et on obtient donc de l'arsenic métallique.
D'accord. Et donc des résultats très fiables.
Des résultats
on peut dire
très fiables.
Il y a eu empoisonnement ou il y a eu contamination,
voilà.
Etc.
Voilà, absolument. Ouais. Donc ça, effectivement, ouais. On se dit c'était une méthode fiable qui avait fait ses preuves, etc. Il faut quand même savoir que.
Est-ce qu'un corps humain contient naturellement de l'arsenic?
Tout à fait, en très très faible pourcentage. Alors je crois que j'ai pour vous donner un petit ordre d'idée, dans le sang, ça doit être inférieur donc à 100 microgrammes par litre de sang.
D'accord. Alors là, on est en milligrammes.
Vous imaginez
énorme,
donc vraiment les.
Ça fait exploser le thermomètre.
Ça fait exploser les scores. Donc c'est des taux qui sont effectivement très très importants. Mais on a eu dans l'histoire des cas tout au long du 19e, parce que l'arsenic profite quand même d'une réputation sulfureuse, c'est le cas de le dire, dans les annales judiciaires. On a eu beaucoup de cas, et notamment un cas extrêmement célèbre qui rejoint un peu l'affaire Bénard, c'est l'histoire de Marie Lafarge. Marie Lafarge, 1840. Donc, premier grand procès de l'histoire avec l'intervention de Mathieu d'Orfila, grand médecin légiste, toxicologue, l'inventeur de la toxicologie médico-légale actuelle.
Gay-Lussac aussi, je crois.
Gay-Lussac également.
Qui arrive trop tard.
Il part de
Paris en catastrophe, il dit mais cette femme n'est pas coupable. Il arrive, le verdict a été rendu, elle a été
condamnée, donc elle a été emprisonnée à vie pour le meurtre de son mari à l'arsenic, encore une fois. Mais donc, il y a effectivement toute une tradition de crimes commis par les femmes, et il ne faut pas oublier non plus que ce poison très particulier est aussi, depuis le XIVe siècle, le poison des rois et des reines.
Bien sûr.
C'est un poison éminemment politique.
Alors, si on ajoute ça, qui est évidemment les charges sont accablantes, apparemment. Bon, si on ajoute les mobiles repérés par la justice, c'est-à-dire, mais elle fricotait avec Adi, l'Allemand en plus, on est tout de suite après la Deuxième Guerre, songez donc, elle couchait avec un Allemand, et puis en même temps, elle a quand même enterré, avant son mari, 11 autres personnes, dont elle a, en général, hérité. Ça fait très lourd dans la barque de Marie Bénard. On va faire une toute petite pause, et ensuite, avec Bérangère de Condat, on va parler de ceux qui ont à un moment renversé la vapeur en faveur de Marie Bénard. Il a fallu 12 ans pour ça.
RTL, toujours avec vous. L'heure du crime sur RTL.
Alors quel plaisir d'avoir dans cette émission aujourd'hui un expert scientifique pour pouvoir vous poser toutes les questions qu'on continue inlassablement à se poser sur le cas Marie Bénard, acquittée, répétons-le, redisons-le, en 1961, donc lavée de tout soupçon, mais certains disent « Ah mais ça c'est la vérité judiciaire ». Il y a des auditeurs et des auditrices qui nous ont passé un petit coup de fil déjà depuis tout à l'heure, 3210, je vous le rappelle, c'est pour les coups de fil, et rtl.fr si vous préférez nous envoyer des courriels. Sylvia nous a appelée, elle habite Valence maintenant, mais elle dit quand j'étais petite, j'habitais à Loudun, et à l'époque, peu après l'affaire, nous avons croisé dans la rue Marie Bénard par hasard avec mes amis, et ben on a eu peur et on s'est enfui. Et elle dit, avec le recul du temps, j'ai de la peine en repensant à ça, parce que si elle est innocente, vous voyez quand même le doute. Si elle est innocente, ça a dû lui faire de la peine. Et Dominique, qui nous appelle de Haute-Corse, nous dit, après des preuves aussi accablantes d'arsenic trouvé sur 11 corps, pas sur un, sur 11, est-ce qu'un acquittement était vraiment justifié? Alors, maintenant, la parole est à la défense.
L'acquittement était tout à fait justifié dans la mesure où, comme on le disait tout à l'heure, les prélèvements n'ont pas été observés en bonne et due forme. Il faut quand même rappeler que lors du deuxième procès, la contre-expertise avait demandé l'exhumation d'un certain échantillonnage de cadavres pour faire la comparaison sur des taux d'arsenic qui avaient été retrouvés également.
Ah d'accord, donc on a pris des cadavres témoins, si j'ose dire.
Des cadavres témoins, d'accord. Donc au cimetière de Loudun. Ouais.
Et qu'est-ce qu'on a trouvé là?
On a trouvé effectivement de l'arsenic en faible quantité, concentré essentiellement au niveau des fanères, donc au niveau des cheveux. On s'est aussi concentré sur la dynamique des sols. On s'est aperçu que finalement toutes les tombes des membres de la famille de Marie Bénard étaient donc inhumées dans un lieu très particulier, en zone déclive. Donc finalement,
ça veut dire qu'il y a des ruissellements d'eau.
Il y a des ruissellements d'eau assez importants après les pluies. On sait que dans cette zone-là, beaucoup de produits à base d'arsenic étaient utilisés, notamment en agriculture. Donc bon. On peut penser effectivement qu'un acquittement dans ce cas, avec les moyens de l'époque, était possible. Il faut quand même pas oublier une chose qui me semble tout à fait importante, c'est que ce procès était basé essentiellement sur la délation. C'est-à-dire que la notion de témoignage, qui est on ne peut plus importante de nos jours, maintenant dans les procès, a été au centre de cette affaire. Mmh. Et c'est le témoignage d'une femme à partir de laquelle a commencé.
Oui, bien sûr, confidence dont on a parlé, et, de Léon, supposé.
Voilà, et actuellement, on travaille énormément, notamment en profilage et en psychocriminalistique. Ouais. Je cite Samuel Desmarquis, qui travaille sur la notion de témoignage et sur la faux témoignage. Ouais. La notion de témoignage est très importante. On a eu des procès très célèbres dans l'histoire, le procès de Salem, les sorcières de Salem, Massachusetts, c'est 1692, où plusieurs personnes ont été brûlées.
Oui, mais il ne faut pas aller si loin. À Loudun, il y a eu...
Loudun, Urbain Grandier.
Urbain Grandier, hein.
Absolument. Absolument. Donc, voilà, c'était les mythes.
Oui, mais alors, moi je me fais quand même l'avocat du diable, Bérangère de Condat, parce que dans les notes que j'ai, je vois qu'il y a eu certes Georges Bérou, bon, peut-être il s'est planté. Il y a d'autres analyses qui ont été faites par les professeurs Fabre, Conabres, Griffon, en 52, qui concluent à une présence, ils sont plus prudents, présence anormale d'arsenic. Bon, un rapport du professeur Pied de Lièvre, en 54, qui confirme les conclusions des analyses de 52. Il est aussi plus nuancé que Bérou, mais bon. Et un rapport du professeur Frédéric Joliot-Curie, un nom célèbre en France, qui confirme la présence anormalement élevée. Alors, malgré tout, vous, âme et conscience, et avec votre bagage scientifique, vous dites on s'est planté.
Je pense qu'il est quand même important de répéter que si un échantillon n'est pas conservé en bonne et due forme, si les choses ne sont pas faites, si les mesures draconiennes ne sont pas
En tout cas, pour la justice, on ne peut pas condamner quelqu'un comme ça.
Non,
on est bien
pas.
D'accord.
Non.
On va faire la part encore à un document Radio Luxembourg. C'est toujours tendance à dire un document RT. Ben là, c'est encore un document Radio Luxembourg du 12 décembre 61, donc le jour de... Enfin, du 13 décembre, très exactement. Hein, Marie Bénard a été acquittée le 12, et le 13 décembre, Georges Walter, qu'on a entendu tout à l'heure poser des questions à Marie Bénard, Georges Walter, qui avait donc d'abord suivi le procès à Bordeaux, se rend évidemment à Loudun pour observer les premières réactions des habitants de cette petite ville désormais célèbre dans la France entière.
L'acquittement de Marie Bénard, c'est un coup très grave porté à l'expertise judiciaire. Des savants, des spécialistes ont rédigé des rapports pendant des années. Les uns, très sûrs d'eux-mêmes, ont été démentis ou se sont ridiculisés. D'autres, honnêtes, compétents, ont dit leurs doutes. Eh bien, tant de doutes additionnés, ça donnait beaucoup d'incertitudes. Le procès Marie Bénard, c'est aussi le procès de la rumeur publique dans une petite ville de province, du cheminement incontrôlable des ragots. Pendant ce procès, on a pu goûter et déguster un peu de ce venin distillé par des dames au chapeau noir derrière les volets de la petite ville, et c'est ça l'arsenic de la province. Ce matin, j'étais à Loudun. Dans la brume, la petite ville semblait morte. C'était ça, le théâtre de l'affaire Marie Bénard. J'ai pris un café à l'hôtel du Cheval Blanc. Le gérant du Cheval Blanc, Toussaint, un des accusateurs de Marie Bénard, est mort. La nouvelle patronne n'avait guère envie de parler. Quel contraste entre Loudun ce matin et Bordeaux hier soir. Cette femme de 65 ans, qui chaque jour du procès semblait vieillir et épuisée davantage, avait brusquement rajeuni, un bouquet de violette à la main. Elle répondait avec beaucoup d'aisance aux questions bien diverses d'ailleurs qui lui étaient posées à la volée. Et Marie Bénard, comme à ses poules autrefois, distribuait un peu de grain aux journalistes.
On a entendu tout à l'heure le grain qu'elle avait donné déjà, donc la veille. On a diffusé ce document tout à l'heure. Alors, on va rester dans les documents parce que ça permet aussi de voir comment un fait divers aussi énorme, une affaire criminelle, peut laisser son empreinte dans un village, mais aussi dans tout un pays. Et les journalistes aiment bien les anniversaires. Alors, Marie Bénard est donc acquittée en 61. 1971, ça fait 10 ans. Alors, RTL, cette fois, puisque Radio Luxembourg est devenu RTL, envoie, 10 ans après l'acquittement, Bernard Etienne, journaliste d'RTL, dans le village, puisqu'elle est retournée vivre à Loudun. Et donc, vous allez l'entendre, Bernard Etienne raconte à quoi ressemble alors la vie de celle que la presse surnomme désormais la bonne dame de Loudun.
N'a rien perdu de son mystère. Sur la route de Poitiers, la porte de la petite maison de deux étages aux volets fraîchement repeints de bleu clair s'ouvre sur une vieille dame de 75 ans, au dos un peu plus voûté, au teint basané, au visage maigre, aux lunettes faussement rassurantes. La voix est douce mais ferme. J'ai choisi la paix et la discrétion, je suis heureuse ainsi. Et elle a toujours refusé d'en dire plus. À Loudun, tout le monde la connaît, elle fait comme partie du paysage, et de la vie quotidienne. Et il faut le dire, presque tout le monde l'aime bien. Coupable ou pas, cela ne semble plus avoir beaucoup d'importance pour voisins, amis, commerçants, avec qui chaque jour, à l'heure des courses, elle parle de tout et de rien, de ces mille petites choses qui font les journées de province. C'est une affaire terminée, enterrée. Il n'est plus nécessaire d'en parler, entend-on à droite et à gauche. Et puis, sous-entendu, moi j'ai bien ma petite idée, mais ne comptez pas sur moi pour vous la révéler. Enfin, il y a bien ceux qui la croient coupable et qui lèvent les yeux comme résignés. Sortie de l'ombre, un instant, Marie Bénard y retourne avec une feinte humilité. Sa petite silhouette décidée est entrée vive dans la légende, en attendant qu'un jour un metteur en scène ou un poète braque ses projecteurs sur la petite maison au volet bleu.
Des babos, ça, hein, des reportages de la radio, ouais. En 1971. Moi, je ne m'en lasse pas. Sont vraiment des trésors, hein, qui se trouvent dans les archives, ouais, sonores de la rédaction d'RTL et de Radio Luxembourg. On va faire une pause et puis ensuite, je vais vous poser la question que j'ai envie de vous poser depuis le début, Bérangère de Condat. Si le procès de Marie Bénard avait eu lieu là, dans les années 2000, est-ce que ça aurait été vraiment très différent? On y revient dans un instant.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Alors, Marie Bénard, l'empoisonneuse de Loudun ou la bonne dame de Loudun, certains se posent encore la question, mais vous avez compris en écoutant mon invité, Bérangère de Condat, qui elle-même est anthropologue judiciaire, que vraiment, l'instruction était quand même un peu menée en dépit du bon sens.
Absolument.
Et les experts ont été quand même légers sur, comme vous le disiez, la conservation des... Enfin, ça passerait plus aujourd'hui,
non, absolument
ça.
Absolument pas.
Du tout, hein. Alors justement, pour la question que je voulais vous poser, imaginons que l'affaire de Marie Bénard éclate aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a le cœur net assez rapidement?
Je pense qu'on aurait eu le cœur net assez rapidement, dans la mesure où les premiers prélèvements auraient été vraiment menés de façon draconienne, avec les recommandations européennes.
On aurait su s'il y avait ou pas de l'arsenic dans la soupe de Léon.
On aurait su déjà, voilà. On aurait examiné des restes autopsiques avec beaucoup de rigueur, notamment le bol gastrique. On aurait observé énormément de choses. Et en plus, il faut quand même dire que depuis l'affaire Bénard jusqu'à nos jours, la toxicologie médico-légale a fait de très très grands progrès. Ouais. Donc voilà, on aurait eu des moyens vraiment fiables.
C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus un point d'interrogation, parce que très agaçant. Dans une affaire judiciaire, ça fait bondir les avocats, je pense notamment à Dupond-Moretti, qui est très souvent, maître Dupond-Moretti, qui est souvent notre invité ici, qui ne supporte pas qu'on dise mais un tel a été acquitté au bénéfice du doute. Ouais. Il dit ça ne veut rien dire, on est acquitté ou on est condamné.
Absolument.
Et elle a été acquittée, cette femme.
Elle a été acquittée parce que, de toute manière, les éléments probants à sa charge étaient, somme toute, malmenés par la contre-expertise. Là, c'est vraiment une véritable bataille. Ce procès est important parce qu'il met en partie deux grandes forces qui s'affrontent, donc l'expertise et la contre-expertise. Ouais. Et c'est la première fois dans l'histoire criminelle française qu'on a vraiment autant d'intérêt en jeu, parce que c'est vraiment, finalement, le procès à la toxicologie.
Bien sûr. Mais on parlait hors micro, vous me parliez de Napoléon.
Hein, Napoléon, bien sûr.
Grande question qu'on se pose depuis toujours, est-ce que Napoléon a été empoisonné à Sainte-Hélène ou pas? Bon, est-ce qu'on a d'ailleurs une réponse à cette question?
Alors finalement, à partir des enquêtes qui ont été menées par des équipes américaines, des équipes françaises, on s'est rendu compte que finalement les expertises sur les restes de Napoléon ont été effectuées principalement sur des cheveux. Ouais. Il y a les cheveux qui sont conservés notamment à Chinon.
Mais il y a une différence entre trouver de l'arsenic dans les cheveux organes
Alors, quand on trouve de l'arsenic au niveau des fanères, donc les cheveux, les ongles et les poils, en général, c'est un empoisonnement qui se fait progressivement, donc par petites doses sur des périodes plus ou moins longues. D'accord. En revanche, lorsque l'empoisonnement est aigu, on a vraiment une concentration très importante du poison dans la zone gastrique, avec donc des effets plus ou moins terribles qui portent effectivement au vomissement, à des nausées terribles, etc., des douleurs insupportables. Donc on a déjà en médecine légale ces grandes distinctions. Hein, on peut déjà distinguer a priori un empoisonnement rapide et un empoisonnement plus long.
Alors, autre question, certaines personnes, j'avais la liste tout à l'heure, je l'ai perdue sous les yeux, certains des proches donc de Marie Bénard, dont les corps ont été exhumés, enfin les corps ou les restes, le premier, il date de juillet 1927, Auguste Antigny, donc le cousin, premier époux de Marie Bénard. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'il n'y a plus de viscères?
Oui, mais on peut avoir quand même des concentrations. Il peut rester quand même des choses que, sur lesquelles on peut travailler.
C'est celui dans lequel on a trouvé le moins d'arsenic.
Oui. Oui, mais bon, parce qu'après,
par rapport aux doses énormes des autres.
Il y a l'effet du temps. Il y a différents paramètres, hein, si vous voulez, qui rentrent en ligne de compte pour la conservation d'un corps. Et dans la légende, il faut quand même pas oublier qu'il était dit que l'arsenic conservait les corps. L'une des propriétés de l'arsenic, c'est de conserver les corps. Et il faut aussi dire qu'on a, et ça c'est quand même quelque chose qui est réputé en médecine légale, on a certaines professions, comme les tanneurs par exemple, ou certains métiers de l'agriculture, ou encore les taxidermistes, qui utilisent des produits à base d'arsenic. Donc, si on devait analyser leur organisme, effectivement, ils auraient des taux d'arsenic beaucoup plus importants que la moyenne.
Ce qui ne les aurait pas empêchés de mourir de mort naturelle.
Absolument. Et en plus, il y a une autre chose aussi qui est très intéressante, c'est que l'arsenic était quand même présenté dans tous les documents du 19e et du 20e siècle comme la poudre de la succession.
J'adore la formule. Oui, c'était la poudre de succession, ce qui permettait d'hériter. Donc, c'était ce qu'on glissait dans le bouillon de 11h ou de minuit. Hein, et dont on a commencé à parler, évidemment, au moment de la Brinvilliers, l'affaire des poisons, Louis XIV. Alors, ça nous entraînerait trop loin. Là, on arrive à la fin de l'émission. Je voudrais qu'on se quitte, Bergère de Condat, avec un autre document. Il faut dire que Marie Bénard, en fait, est morte dans son lit, si j'ose dire. Elle n'était empoisonnée par personne, en tout cas. Elle est morte à l'âge vénérable de 84 ans.
Tout de même.
Le 15 février 1980. D'ailleurs, l'annonce de sa mort a été donnée en direct ce jour-là, à l'ouverture du journal de 13h par Jean-Claude Larivoire. Et après l'annonce donc de cette mort, évidemment, on réveille toute la journée dans les flashs et puis on prépare le journal d'RTL Soir, 18h. C'est Jacques Chaput qui présente à l'époque ce journal. Et évidemment, à l'ouverture du journal de RTL Soir, Jacques Chaput raconte les derniers moments de l'héroïne involontaire d'un des plus longs feuilletons judiciaires qu'ait connu la France à cette époque.
Peut-être d'un des plus importants procès criminels du siècle, Marie Bénard est morte. Elle cumulait deux surnoms, l'empoisonneuse de Loudun, la bonne dame de Loudun. Selon les témoignages, elle était l'une ou l'autre. La leçon que l'on tire de cette mystérieuse affaire demeure que Marie Bénard a connu 12 ans de procès et 5 ans de prison. Que l'on peut être innocent ou reconnu innocent tout en passant 12 ans de sa vie dans les griffes de la justice, dont 5 ans en prison. Libérée, en 1961, Marie Bénard avait retrouvé sa petite maison en bordure de Loudun. Malade, atteinte d'un cancer des os, elle s'installait dans un hospice de vieux. Là, la vieille dame retrouvait un compagnon. Avec lui, elle décidait de finir ses jours chez elle. Souvent, elle annonça son intention de se remarier, mais la hantise de revoir son nom revenir au premier plan de l'actualité l'en dissuada. Hier soir, son compagnon lui a fermé les yeux. La bonne dame de Loudun était morte, mais il n'empêche que Marie Bénard, pour toujours, figurera dans les annales des grandes empoisonneuses de tous les temps au chapitre des mystères.
Voilà la conclusion de cette émission spéciale consacrée à Marie Bénard. Merci beaucoup, Bérangère de Condat, de nous avoir accompagnés et pour éclairer cette affaire encore mystérieuse pour certains. Je rappelle le titre de votre livre, ça c'est votre actualité, Le saccage de la chair, où vous parlez de tueurs en série. Alors eux, vraiment, dont on est sûr qu'ils ont été des tueurs en série. C'est un livre qui est donc paru il y a à peine 2 mois aux éditions Moseyou. Et je voudrais également dire un tout petit mot juste à ceux qui nous écoutent. Si vous avez pris l'émission en cours de route, je vous le dis assez régulièrement, vous pouvez aller sur rtl.fr, vous pourrez réécouter dans la foulée toute l'émission, ou alors l'enregistrer, la podcaster, comme on dit. Voilà.